Bonjour, vous n'écoutez pas Radio Alice, mais bien Alternante FM. Et pour ce numéro de La Perle à rebours, réalisé depuis le café La Perle avec la complicité de Nasser Zourane, du régisseur général Yann Le Taïron, de la programmatrice Christelle Bilan, du chef de chorale Laurent Messager, et par la pensée de Sylvain Chantal, je reçois Diana Vivarelli, auteure dramatique, comédienne, réalisatrice, metteuse en scène et romancière.
Autrice.
Il y a discussion. Et donc j'ai choisi auteur parce que ça sonne mieux à l'oreille.
Parce que les femmes, il faut que...
Non, auteur.
Mais on ne l'entende pas, jusqu'à quand on ne nous entende pas.
Il faut développer vos pavillons.
Comme dit Corinne Maziero, ouvrez vos gueules.
Diana, Pour ton bien, c'est votre 14e livre publié, alors celui-ci aux éditions Spinel. Avant de le présenter, quelques questions préliminaires. Nous savons que vous êtes née à Bologne, en Italie, mais vos parents ont-ils divorcé?
Non, ils n'ont pas divorcé.
Est-ce que vous avez un frère et une sœur?
Oui.
Avez-vous exercé le métier d'institutrice?
Oui.
Avez-vous été une enfant rebelle qui ne s'est pas alimentée pendant un certain temps?
Non.
Avez-vous eu des taches blanches sur votre cou?
Oui.
Lisiez-vous des livres sur le marxisme, les mouvements de contestation, de philosophie orientale?
Ah ben, largement.
Étiez-vous une bonne élève?
Ah oui.
Avez-vous fondé une communauté à Camogliano?
Oui.
Savez-vous cuisiner la polenta et salsificia?
Non.
Êtes-vous doué en maroquinerie?
Oui.
Avez-vous travaillé en usine de confiture?
Ah ben oui.
Ah oui. Avez-vous profité d'une liberté sexuelle?
Pour l'époque, oui, je dirais, oui. C'était l'époque.
Bon, vous avez été victime de l'attentat de Bologne, on le sait.
Oui.
Et donc, vous n'êtes pas tout à fait Sylvia, mais vous êtes un peu Sylvia, votre personnage.
Oui, bien sûr. Ça s'inspire de faits réels. Et ce qui m'intéressait, c'était justement mélanger la grande histoire à mon histoire personnelle.
Et vos fantasmes?
Pourquoi fantasmes?
Je ne sais pas, comme ça. Il faut lire le livre.
À mes rêves, je dirais.
Vous écrivez directement en français?
Oui.
Est-ce qu'il y a ou il y aura une traduction en italien?
Ah ben alors là, j'aimerais bien. Qui est une traduction en italien, je pense que ça permettrait aux Italiens de revoir un peu toute cette période historique des vies. Et donc, si possible, bien sûr.
Le roman nous plonge dans l'Italie de la décennie 70-80, 1970-1980. Comment vous la décririez, cette période?
C'est une période, je dirais, où il y avait encore des possibles. On pensait qu'on arriverait encore à changer, à déterminer et à changer les cours de nos vies, avant que les cours de l'histoire, parce qu'on était jeunes, donc on pensait d'abord à ce qui serait été notre vie. Donc avec un enthousiasme démesuré, c'était l'après 68. Nous, on n'avait pas vécu le 68 en Italie, mais il y avait les répercussions sur les gens qui étaient c'est de pouvoir imaginer, l'imagination au pouvoir, donc une vie complètement différente, je dirais même dans tous les excès possibles.
Pour s'échapper d'une culture patriarcale très marquée?
Voilà, très marqué, et dans tous les détails, qui rentrait dans tous les détails de la vie, et même par rapport à la loi, puisqu'on a bien vu, même en France, il fallait attendre 1965 pour avoir les permissions de travailler, enfin, pas avoir la permission de travailler avec la permission du mari, ou d'ouvrir un compte en banque, donc on était encore bien asservi par les lois même.
Oui, je pense qu'on peut comparer avec ce qui se passait en France, il n'y a pas de souci. La religion catholique, très présente.
Ah ben ça, c'était, je crois, ce qu'il y avait de plus pesant. Et encore, dans la ville où je vivais, à Bologne et dans le nord d'Italie, il y avait déjà des rébellions vis-à-vis du pouvoir de l'Église, un peu comme dans les films avec Don Camillo et Peppone, qui, en fait, ils montraient bien la proximité et en même temps la divergence entre ces deux modes de vie et de voir la vie.
Est-ce qu'on peut décrire cette jeunesse qui aspire à s'échapper de ce carcan familial pesant? Ce n'est pas toutes les Italiennes de votre génération.
Bah, je dirais que ce n'est pas toutes, mais c'est la grande majorité. Parce que justement, quand je parle de pouvoir choisir tout simplement sa vie, de sortir dans un parc, on va dans un parc, on est embêté toujours par quelqu'un, on est jugé, on ne peut pas circuler, on ne peut pas rentrer tout simplement même dans un café, boire un coup, ça n'existait pas. Faire des choses simples aujourd'hui, toutes seules, ce qu'on appelle toutes seules, c'est-à-dire toutes seules, ça voulait dire sans un homme qui nous accompagne, c'était encore extraordinaire, sauf aller à l'école ou d'aller pendant les trajets en bus, par exemple. Je raconte que les filles se faisaient embêter, toucher les fesses et j'en passe, et personne ne réagissait, personne ne disait rien, c'était normal et acceptable, je disais. Presque une façon d'éduquer les femmes à se taire, les filles à accepter d'être touchées malgré elles.
Le mouvement MeToo n'existait pas.
Non, il y avait le mouvement féministe qui existait et qui était justement, je dirais, considéré comme si on était des sorcières un peu.
Et cette jeunesse, parfois, pouvait entraîner les mères. On va parler d'une histoire d'une émancipation, mais l'émancipation, elle peut prendre des chemins différents.
Ben, disons que par rapport au personnage de la mère que j'ai décrit, on voit bien cette contradiction entre une envie, une forte envie d'être indépendante, qui est due à l'effet de travailler, le travail comme moyen d'être indépendant, d'avoir son argent et l'impossibilité de pouvoir profiter de cet argent qui était à chaque fois, je dirais, volé par les hommes, utilisé par les hommes, ou alors il servait vraiment à l'éducation des enfants, alors que l'homme souvent l'utilisait pour s'amuser, pour son propre plaisir, pour avoir d'autres maîtresses, et voilà, alors que l'argent des femmes était dédié à l'éducation des enfants, point la ligne.
Mais pour répondre à ma question...
Oui.
Très précisément. Là, on parle d'une manière générale, oui. Et dans quelques instants, on rentrera plus dans le livre. Les rapports entre la mère et la fille du roman, mais je parle en général, les mères-filles pouvaient être conflictuels, mais les jeunes filles en marche pour l'émancipation pouvaient aussi inspirer la mère qui elle-même inspirait cette émancipation en prenant un autre chemin. Les filles pouvaient entraîner les mères.
Oui, les filles pouvaient entraîner les mères.
Mais c'est pas si simple que ça.
Mais c'est pas si simple que ça, parce que justement, en même temps, les retours n'étaient pas forcément... de laisser la fille s'émanciper. C'était justement toute la contradiction. On pouvait avoir une mère même qui essayait de s'émanciper, mais qui ne voulait pas que sa fille le fasse. Donc, elle subissait les contre-coups, les gênes de ça. Et puis, à la fin, c'était nécessaire de se rebeller, je crois, et d'aller toujours plus loin, rien que pour se maquiller ou sortir sans homme qui t'accompagne.
Pourquoi avoir choisi la forme du roman pour raconter cette histoire ? C'est pour avoir plus de liberté ou parce que vous dites, moi, Diana Vivarelli, je ne vais pas vendre sur mon nom mon histoire ?
Disons que ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'avais envie d'écrire sous forme de roman, parce que justement, ça permettait d'aller dans les détails, d'aller dans les descriptions. Le théâtre, c'est la parole vive et ça ne permet pas de décrire exactement comme j'aurais voulu. Tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était enchaîné les choses aux autres, le théâtre, où il est plus évocateur, où il est plus direct, mais ne laissez pas la possibilité de faire les deux, direct et évocateur.
Mais pourquoi la forme du roman et pas du récit, d'une autobiographie ?
Ce n'est pas une autobiographie.
Non, on m'a bien compris, j'avais mon petit test
donc,
de départ.
Ça permettait d'intégrer toute une série de pensées, des choses qui n'étaient pas forcément celles que j'avais vécues. Et donc, ça permet un regard beaucoup plus large, malgré que j'utilise les « je », c'est-à-dire les « moi », mais ça permet d'englober tout ce qui est autour aussi.
C'est plus difficile d'écrire un roman qu'une pièce de théâtre ?
Plutôt que plus difficile, c'est des temps différents. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est déjà en français, il y a quand même une langue qui est la langue parlée, une autre langue qui est la langue écrite. Ce sont deux langues différentes. Et je crois que les Français ne se rendent pas assez compte de la différence entre les deux et qu'il est peut-être temps d'arrêter de vouloir séparer les deux, parce que c'est un peu comme avoir des mandarins qui parlent comme un chinois d'élite et d'autres qui ne les parlent pas. Ça m'a assez pris la tête d'ailleurs, parce que je voyais bien que les éditeurs n'auraient pas accepté que je tombe dans la langue, ce qu'ils appellent la langue parlée, alors que pour écrire il faut la langue des doctes, ce qui n'existait pas en Italie. Hein. On a un seul langage, c'est celui-là. Voilà, donc c'est plus ce que je voulais dire.
Mais c'était pour savoir si c'était plus compliqué ou plus,
donc,
ou plus difficile.
Donc effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on doit réapprendre le langage qui est différent. Quand on écrit du théâtre, on n'a pas besoin de cet apprentissage aussi, je dirais, académique des académiciens français qui ont figé la langue dans des règles qui n'existaient pas.
Oui, mais enfin la littérature c'est fait pour bousculer tout ce petit monde-là. Donc,
oui, mais après il n'y a pas que la littérature
en
soi comme
après.
Théorie, c'est que dans la pratique, si on peut, mais il y a intérêt à être très connu et de pouvoir le faire. C'est exactement les problèmes des femmes qui au début disent même auteur, auteure ou autrice. À quand on dit pas.
Ah ben moi, jusqu'à la fin de ma vie, je dirais auteur parce que j'ai vu que c'est l'Académie française qui le recommande.
Voilà. Et moi, jusqu'à la fin de ma vie, je dirais autrice pour permettre que ça ne soit pas caché les derniers E après les heures de l'homme.
Je ne sais pas si notre chorale est prête. Je laisse Marco s'installer et Sylvie aujourd'hui. Une chanson en italien, c'est ça? Est-ce que Marco, vous pouvez présenter la chanson?
C'est une chanson d'un auteur-compositeur de Bologne que peut-être toi tu connais personnellement, je ne sais pas. Il s'appelle Francesco Guccini.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti.
E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Correndo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro i re e i tirani scoppiava nella via. La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agliori. Pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta e gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua alla macchina a vapore, la bomba sua alla macchina a vapore, la bomba sua alla macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura. E prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno, ignaro, quasi senza fretta. nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno, notizia d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro al treno, un pazzo si è lanciato contro al treno, un pazzo si è lanciato contro al treno. Ma corre, 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 corre la locomotiva, è sibila il vapore, sembra quasi cosa viva. E sembra dire ai contadini curvi il fischio che si spande in aria. Fratello, non temere, che corro al mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. E corre, corre, corre sempre più forte. E corre, 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 corre verso la morte. E niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice, della grande consolatrice, della grande consolatrice. La storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo suo grido di animale, la macchina eruttò, la pillellava. Saltando contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata a bomba contro l'ingiustizia, lanciata a bomba contro l'ingiustizia, lanciata a bomba contro l'ingiustizia.
Merci Marco, merci Sylvie.
Merci Marco.
Alors,
tristissima,
on peut peut-être
tristissima canzone.
Nous dire un mot sur le titre qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est une chanson de Francesco Guccini, qui est un des poètes les plus grands d'Italie, en plus d'être un compositeur et musicien particulier, parce qu'il préférait jouer dans des osteries, c'est-à-dire dans des cafés. Et il n'a jamais voulu faire des tournées, ni nationales ni internationales, mais jouer par des amis, un groupe restreint d'amis, avec une guitare, même chez lui. Et donc, il a eu ces succès énormes, pas parce qu'il a voulu avoir de succès, mais parce qu'il voulait chanter, tout simplement, sans tout ce qui va avec la star. Il a écrit des poésies et des chansons incroyables. Moi, j'ai habité à Pavana, dans le même village où il habitait, un peu par hasard, parce que j'avais fondé une communauté dans le même village. Et j'ai fréquenté, en fait, surtout son frère, qui était plus jeune, de 5-6 ans plus jeune, et donc il avait mon âge. Donc, c'est vrai que je suis très, très émue aussi par la chanson.
Nous, on peut vous laisser raconter.
Il a écrit aussi des livres, Guccini, qui sont traduits en français, qui sont très bien traduits en français, avec Lucarelli aussi, il a écrit. Ça vaut vraiment le coup de les lire pour comprendre qu'est-ce que c'était le monde, je dirais, de la vie des Apennins, des années 50, 40, 50, 30 et même avant.
Bon, c'est bien de faire la promo des aînés, mais nous, on va s'intéresser à Pour ton bien. Vous écoutez bien Alternante FM, plus précisément La Perle à rebours, magazine de la rédaction réalisé au Café La Perle. Toujours en compagnie de Diana Vivarelli, auteur donc de Pour ton bien, roman paru aux éditions Spinel. Un roman qui raconte Dixit, la quatrième de couverture, les souvenirs d'une jeune fille italienne de Bologne, indomptable et anticonformiste dans les années 70 et 80. Alors, comment choisir un nom ?
Les prénoms, c'était assez facile des protagonistes, puisque j'avais écrit déjà la pièce de théâtre Explosion, où j'avais mis en scène l'attentat d'Udeut à Bologne, et c'est là qui est né le personnage de Sylvia.
Mais elle porte un nom.
Et là,
et là c'est au hasard
noms,
ou...
Non, c'est parce que c'est les...
C'est, les, c'est pas Carla, c'est la frangine ou la cousine de Carla.
En fait, le nom de famille de ma grand-mère était Bruni, donc j'ai repris le nom de famille de ma grand-mère.
Rien à voir avec...
Non, rien à voir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était...
Une lointaine cousine, peut-être.
C'est possible. La raison était que son nom de la grand-mère a été occulté par les mariages, et je voulais qu'il ressurgisse, puisqu'elle avait aussi une vie très intense et mouvementée, et ça me paraissait important.
Le roman débute à un moment important dans la vie d'une jeune fille. C'est l'organisation de sa première fête d'anniversaire. On n'appelait pas ça des boums.
C'était pas trop non plus la mode, hein. C'est-à-dire ça commençait tout juste. Je crois qu'il n'y avait pas encore des définitions spécifiques pour des fêtes comme ça.
Et la saison du roman, elle a une culture musicale déjà bien marquée.
En fait, je me suis toujours très intéressée à la musique aussi personnellement. Donc, dans les personnages, ça me paraissait bien de le faire remarquer, d'autant plus que j'ai eu aussi des amies femmes qui ont été disc-jockeys. Et j'ai toujours eu du mal même à faire comprendre à mes amis garçons que j'avais une culture musicale importante.
Faites référence à Santana, oui. Neil Young, Jimi Hendrix Donovan, et pas à la variété telle c'était qu'on pourrait s'y attendre.
Ben oui,
à 16 ans.
Je me suis dit, allez, on commence les livres en donnant déjà quelques clés sur les personnages dont je parle. Et donc, j'ai fait référence aux musiques qu'on écoutait à ce moment-là. Juste... Mais je ne sais pas si c'est vrai qu'on écoutait tant que ça des chansonnettes et tout. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression.
Non, mais dans ce genre de fête.
En tout cas, où j'habitais, ce n'était pas comme ça. Peut-être en France, oui, mais non. Ce n'était pas la même chose, peut-être. Je ne sais pas. Les idoles venaient de l'étranger, beaucoup. C'est-à-dire, on avait le mythe de l'Amérique, les mythes de Londres. Après, quand j'avais les amis, justement, disjockeys, ils allaient chercher les musiques à Londres. Je ne sais pas si en France, il y avait peut-être plus de musique française.
Il y avait aussi pas mal cette culture rock.
Et aussi parce que c'était la fin de la guerre du Vietnam. C'était tout ce qui impliquait d'être différent, de renier le passé, de plonger dans ce qui était les futurs. C'était tout ça, en fait. Hein. Pour danser aussi, parce que pour danser, il fallait des musiques un peu vives.
Des slow.
Des slow,
pas trop.
Non, pas trop.
Il y a un groupe qui n'est pas parvenu jusqu'à mes oreilles. C'est Nomadie, il n'est pas passé les Alpes celui-là.
Bien, je ne sais pas s'il se posait même la question de passer les Alpes, dans le sens que c'était un groupe dont faisait aussi partie Francesco Guccini au départ, parce qu'il a écrit pas mal de chansons pour eux, qui ont été chantées par les Nomadie. Et c'est un groupe qui était de Modena, qui se trouve à 30 km de Bologne, la ville d'ailleurs de Pavarotti quand même. Bah, il faut dire que la région était aussi communiste. Donc, il y avait cet esprit de rébellion, mais qui n'était pas forcément celui d'aller à l'étranger. Je pense que c'était déjà difficile pour s'imposer comme musicien en Italie et de vivre, parce qu'ils faisaient souvent d'autres métiers. Ils ont continué à faire d'autres métiers, je crois, longtemps.
Pour préciser le contexte familial de Sylvia, un frère, une sœur, des parents qui se disputent, une grand-mère qui n'a pas coupé le cordon ombilical avec son fils... L'image qu'a Sylvia de ses parents est très négative. Vous lui faites dire « j'aurais voulu une mère et non une vipère, un père et non un porc ».
Exactement, oui. C'est-à-dire que...
Drôle de, de parents.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a comme une voile qui tombe. Je crois que ses réflexions sont de ce type-là parce qu'elle croyait justement de faire une vie normale, que ça soit normal même les disputes, que ça soit normal son père qui ne rentre pas la nuit, que ça soit normal sa mère qui fait alarme, que ça soit normal qu'elle dit que son mari ne lui donne pas l'argent pour nous élever alors qu'il faisait les mêmes métiers et gagnait les mêmes argent, et d'un seul coup, ces voiles tombent, puisqu'il y a ces révélations fracassantes, et avec l'âge, je pense qu'elle comprend que ce n'est pas du tout ce qu'elle croyait contre sa mère, qui remet en discussion ce qui était une normalité qui n'était pas. Et je crois que dans les familles, c'est souvent comme ça, on arrive à un certain âge, où on comprend que ce qu'on croyait qui était la normalité se révèle un dysfonctionnement grave qui nous fait peut-être réagir de façon, je dirais même immodérée. Mais à l'adolescence, on perçoit tout avec excès, je pense. On a les émotions qui sont multipliées, ils sont beaucoup plus fortes. Et donc, ça nous amène à être excessives, mais tant mieux. Parce que si on veut aller au-delà de ce qui est l'apparence, il faut aussi oser faire ça, dire ça, c'est dire ça.
Les deux parents travaillent dans l'éducation nationale, ce qui donne la vocation à Sylvia, alors qu'elle voudrait s'extraire de son milieu, donc c'est pas un peu paradoxal, non ?
Je sais pas, je pense qu'on est souvent entre deux, on se dit jamais je ferai ce que mes parents ont fait, je vais pas être comme eux, et en même temps, il y a des choses qui nous plaisent, qui nous conviennent, mais qui qui sont mélangées à ce que les figures familiales représentent. Donc, entre les deux, on est un peu en contradiction. Parce que justement, entre ce qui était même les désirs d'enfance, les désirs... C'est difficile de faire la part entre ce qu'on dit quand on est enfant très, très jeune et ce qu'on dit après pour même s'opposer à ce que voudraient les parents. C'est un peu ça.
Le père a été mis à l'écart des élèves. Alors, il était suspecté de pédophilie. Est-ce que c'était caché dans la famille?
C'est ce que j'ai vu un peu montrer, que dans les familles, ce qui est secret de cet ordre-là est caché, mais en même temps, tout le monde sait. On croit que c'est caché, mais il y a toujours des choses qui font que les enfants perçoivent ce que les parents croient qu'ils ne perçoivent pas. Et donc, que l'équilibre familial ne peut pas être réel, ne peut pas être tenu sur des mensonges. C'est un peu les typiques secrets des familles, c'est ça que je voulais montrer.
On suit tout au long du roman le parcours de l'émancipation de Sylvia, de la jeune adolescente très naïve, qui doute, qui s'interroge, ou qui n'ose pas interroger autour d'elle, qui se laisse mener malgré tout, et qui progressivement se construit et se libère. Le but, c'est pas de raconter le livre, c'est de donner des points de repère. Elle est, et elle se met en danger.
Ben oui, comme souvent...
Quand on veut voler de ses propres ailes, et qu'on n'a pas d'expérience.
Et qu'on n'a pas une assise de confiance. Parce que la confiance s'est construite, je pense, justement, quand on est très jeune, très très jeune. Si on ne l'a pas, eh bien, on est obligé de se mettre en danger, d'essayer tout seul sans avoir la possibilité d'échanger avec les parents ou ce qui nous entoure, ou la famille, ou même socialement, que ce soit dans les établissements scolaires, dans la société aussi. Si on ne peut pas, eh bien, c'est vrai qu'on prend beaucoup plus de risques. Et là, c'est ce qu'elle fait. Pour rompre avec ce qu'il perçoit comme une condamnation d'ailleurs, hein, parce que c'est ce que je mets un peu dans disons, la dédicace, ce que je cite Françoise Daubonne ou Denis Arnault, c'est bien ça. C'est l'effet de devoir se mettre dans le danger parce qu'on est toujours considéré coupable. Donc si on est coupable, eh bien, on sera coupable au moins de quelque chose. C'est un peu ça aussi. Si on nous considère déjà condamnables, eh bien on peut faire des choses condamnables, puisqu'on est déjà condamné d'avance.
Mais ça veut dire qu'on peut se construire intellectuellement et politiquement, et malgré tout se faire avoir.
Si on pouvait, grâce à l'intellectualisation, se sauver, eh bien je crois qu'on le saurait et on le ferait. Mais au contraire, c'est peut-être encore plus difficile, c'est un parcours des cailloux plutôt qu'une route goudronnée.
Il y a toute cette quête de définir ce qu'est l'amour, c'est-à-dire il y a toujours une interrogation.
Ça pourrait être ça s'il n'y avait pas la question justement aussi de ce que les hommes attendent des femmes, de ce que les garçons attendent des filles. C'est que la définition d'être femme est pour un homme. Il y a tout ça qui met en crise. Ce n'est pas tant l'effet de découvrir, je pense, l'amour et les dangers qui est aussi l'amour, mais de voir qu'il faut d'abord se conformer à l'idée que les hommes ont de l'amour.
Sylvia a été agressée sexuellement.
Oui. Et je montre aussi ça, c'est que, en fait, effectivement, le monde fait que quand on se met en danger, eh bien, c'est comme dans les contes, si on va dans les bois, ben, on risque fortement de rencontrer des loups. C'est ce qui se passe et c'est ce qu'elle est obligée aussi de dépasser et d'assumer sans pouvoir non plus, comment dire, comme aujourd'hui, avec un mouvement différent qui permet aussi de révéler des choses. Et ça, je crois que, justement, des mouvements comme MeToo sont extrêmement importants, d'abord pour ceux qui ont vécu des violences de ce type-là, parce qu'on libère la parole. Enfin, il faut aller jusqu'au bout, hein. Maintenant, ce n'est pas que je vais dire ça suffit. Mais déjà, ça permet soi-même de prendre conscience qu'on a été agressé ou qu'on s'est fait agresser, parce qu'on n'en a même pas conscience. Et dans ces années-là, on ne pouvait même pas comprendre qu'est-ce que c'était être agressé sexuellement.
Quand on se promène dans les bois, on peut rencontrer des loups, mais on peut aussi trouver des champignons.
Oui.
Alors, on vogue sur la vague post-68, c'est la génération d'avant SIDA, oui. Et si j'ose le dire, on profite de la vie, avec ou sans écriture inclusive, on profite de la vie. Le roman, avant le départ en direction de Paris, se conclut sur l'attentat de la gare de Bologne. On peut juste rappeler très rapidement, Diana, ce qui s'est passé. Vous le racontez très bien dans le livre.
Eh bien, ça, c'est la partie, je dirais, plus autobiographique, puisque j'étais victime de l'attentat à la bombe nazi-fasciste du 2 août 1980. qui a tué 85 personnes et blessé 217 personnes. Là, c'est vrai que j'ai mis des accents plus personnels. C'est ce qui a peut-être aussi été un des événements, évidemment, les plus forts que j'ai dû vivre et qui continue d'ailleurs à être imprimé dans ma mémoire et dans ma vie avec tous les procès qui se continuent. Donc, je montre ce que ça fait.
Oui,
ça,
toutes les souffrances niveau... aussi. Vous
oui,
racontez
c'est
les,
ça,
souffrances.
Les souffrances.
Mais niveau... physiques, pas forcément
oui.
psychologiques.
Oui. Physique et psychologique. Mais les physiques, je pense que pour une victime d'attentat, ce n'est pas les physiques qui est plus important. Enfin, c'est important, ça dépend ce qu'on a évidemment, mais c'est plombé aussi par ce qui est les psychologiques. L'un, c'est lié à l'autre, hein. Ce n'est pas un plus que l'autre, c'est vraiment les deux ensemble.
Oui. Et toutes les difficultés administratives que votre personnage, mais peut-être vous-même, avez rencontrées au niveau de vos papiers, vous avez été
oui,
une sans papier.
La fin, c'est la partie la plus autobiographique, parce qu'effectivement, bah, je me suis retrouvée après attentat, sans pouvoir travailler, sans papier. Et franchement, quand j'écris le roman, je dis, je vais parler un peu de ça, puis je dis, mais c'est possible que ça me soit arrivé une chose pareil, vraiment, à laquelle je m'inspire. Et effectivement, j'ai les papiers qui montrent bien que j'ai fait une demande dans ce sens-là pour retrouver, j'étais une période apatride, quoi. Voilà, et après l'attentat, c'est sûr qu'en plus, ça renforce les sentiments d'étrangeté que j'avais sur moi.
On n'a pas le temps de raconter comment on nettoie les statues à Florence, il faudra lire le livre. Voilà, et puis vous allez rejoindre à Paris un certain Michel. Salut Michel. Enfin, c'est Sylvia qui va rejoindre
oui,
Michel.
Oui, Sylvia va rejoindre
voilà.
Michel. S'il est là, s'il le veut,
je sais pas. Suspense. Merci. Diana Vivarelli, Pour ton bien, roman paru aux éditions Spinel, et merci à toute l'équipe, Marco, Sylvie et Nasser.
Merci
à bientôt
Michel.
Sur les ondes d'Alternante FM.